le castrat.
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Les castrats dont je vous parle ont subi ce qu'à l'époque, avec bien de l'hypocrisie, on appelait la petite opération. L'orchidectomie pratiquée sur l'enfant prépubère, les enfants en question avaient entre 7 et 12 ans, par un praticien spécialisé. La pratique était proscrite officiellement, mais elle relevait de l'habitude, de l'intérêt pour beaucoup et de l'hypocrisie, puisque les parents, bien souvent, mentaient à leurs enfants. On inventait une malformation congénitale ou un accident de la petite enfance, etc. Et pour anesthésier l'enfant sur lequel on avait pratiqué l'opération, on utilisait l'opium ou assez fréquemment aussi la compression de la jugulaire pour entraîner carrément une perte de connaissance. Et ensuite, l'enfant était plongé dans un bain de lait pour amollir les chairs ou dans un bain d'eau glacée de certaines fois. Il y a une scène du Farinelli de Gérard Corbiot, c'était en 1994, qui donne à voir cet attentat contre nature. On estime à 4000, je dis bien 4000, le nombre d'enfants castrés annuellement dans les années 1730, c'est-à-dire au fort d'un phénomène qui a effectivement connu son apogée dans ce premier tiers du XVIIIe siècle. Ceux qui survivent à l'opération, écrit Vincent Borel dans le Classica de septembre 21, ceux qui survivent à cette opération intègrent ensuite un conservatoire. Il faut savoir que la moitié seulement des jeunes opérés survivaient. Le garçon ainsi opéré ne connaîtra jamais la mue et sa voix ne baissera pas d'une octave. Le larynx infantile ainsi préservé bénéficie alors d'une intense musculation des cordes vocales. Le castrat, en grandissant, bénéficiera des poumons d'un corps d'adulte. Et oui, la cage thoracique d'un homme avec les cordes vocales d'une femme, en quelque sorte, voilà le phénomène que l'on essaie de créer. Évidemment que les interventions chirurgicales ne sont pas sans conséquences. Des dérèglements hormonaux apparaissent avec l'élongation des membres qui créent aussi une fragilité osseuse, une poitrine qui se développe, qui se féminise, si l'on peut dire. Le castrat n'a pas de pomme d'Adam, il n'a quasiment pas de pilosité, il souffre souvent de perturbations psychiques. Par exemple, on raconte toujours que Gaetano Caffarelli avait des sautes d'humeur impressionnantes qui faisaient peur. Malgré ça, et au plus fort de la mode des castrats, certains enfants ont été d'eux-mêmes dans cette direction. Ils ont eux-mêmes choisi cette voie douloureuse. C'est le cas par exemple de Luigi Marchesi, qui était une star de l'époque alors un peu plus tardive, la napoléonienne, qui s'était fait castrer volontairement. La vie d'un élève ressemblait un peu à l'entraînement d'un athlète avant les JO cette saison. Ça commençait à 6h du matin avec une heure d'éveil de la voix. Et puis il y avait des exercices vocaux plus fastidieux les uns que les autres. Les plus doués se destinaient à la scène où les attendaient tous les grands rôles. Celui de Jules César, d'Ulysse, de Reynaldo, etc. Le castrat était donc une sorte de mélange assez difficile à cerner entre l'homme, la femme, l'enfant, une sorte de mélange des genres, mélange des appartenances, et ça fascinait le public. N'oubliez pas qu'on est dans une époque de nouveau baroque, une époque rocaille, si je puis dire, où le masculin, le féminin aiment à se confondre ou à se superposer. Et les castrats endossaient tous les rôles. Il y avait des castrats soprano, alto ou contralto, comme nos chanteurs d'aujourd'hui. Il y avait des tessitures, avec certains qui changeaient d'ailleurs de tessiture au cours de leur carrière. Carrière fascinante. On a l'habitude de citer l'exemple de nos rockstars, on pourrait aussi citer celle de nos footballeurs. C'est l'apogée du divo qui donnera plus tard naissance au terme de diva. L'apogée, c'est le milieu du 18e, les années 1720 à 1760 essentiellement, avec des compositeurs qui se mettent à l'école des castrats, bien sûr, et Porpora, Handel, Haas, Vinci, Jomelli vont écrire pour les castrats et vont faire d'ailleurs leur réputation sur les extraordinaires vocalises de ceux auxquels ils destinent leur composition. Cette période reste marquée par la rivalité entre les deux grands noms. Vous les connaissez, j'en ai déjà cité, mais non, j'ai cité tous les deux déjà. C'est Farinelli, bien sûr, et Caffarelli. Ils ont pu se jauger durant leurs jeunes années parce qu'ils ont été tous les deux les élèves de Nicola Porpora, qui aurait dit à Caffarelli à la fin de ses études « Allez mon fils, vous êtes le meilleur chanteur d'Europe ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
1726, au Teatro della Valle, les Romains applaudissent les débuts de celui qu'on appellera Caffarelli, en vérité Gaetano Maggiorano, natif de Bari. Il doit son surnom à son premier maître, un cafaro qui l'aurait fait castrer et qui lui aurait légué son nom avant de le vendre littéralement. Il a 16 ans, Caffarelli, quand il chante le personnage féminin d'Alvida dans un opéra de Domenico Sarro. Sa renommée éclate d'un coup et grâce à Caffarelli, on peut dire que Porpora va lui aussi devenir un phénomène et va connaître ses plus grands succès. Caffarelli, dans la vie, est-ce qu'on pourrait appeler un homme à femme? Je donne une anecdote assez connue, peut-être. Un soir, on le surprend en flagrant délit avec l'épouse d'un aristocrate. Il fuit de manière ridicule en sautant par la fenêtre, un peu comme dans un opéra, vous savez. Il va prendre froid en se cachant toute la nuit dans une citerne d'eau et devra rester alité une semaine entière. C'est un peu les histoires que l'on voit d'habitude sous la plume de Casanova, mais c'est la même époque, c'est pas un hasard et c'est à peu près la même zone géographique. Caffarelli est très susceptible sur la question de sa virilité, forcément, vous imaginez bien. Un jour, il se dispute avec un collègue jusqu'à en venir au coup. Il provoque le librettiste Milia Vacca en duel. Il se comporte outrageusement sur scène afin de décontenancer un autre chanteur. Bref, on ne sait plus quoi raconter tant ces extravagances sont nombreuses et cette inconduite ira même jusqu'à le conduire au cachot, à Naples en 1741. Et le chanteur ne devra sa liberté à ce moment-là qu'à l'intervention du roi en personne, Carlo le IV, roi de Naples. Oh, on sait bien qu'il ne risquait pas grand-chose avec son statut de star avant l'heure. En 1753, Caffarelli arrive dans la ville des villes à l'époque, dans cette lumineuse cité de Paris où les castrats n'ont jamais été véritablement populaires dans l'arène publique. La France s'est beaucoup moins donnée au phénomène que d'autres pays, notamment plus méditerranéens. Il va chanter tout de même pour la dauphine de Saxe, pour Marie-Joseph de Saxe, qui connaît bien l'opéra italien. N'oublions pas qu'elle a été élevée à la cour de Dresde, où on adore cette musique-là. Caffarelli se plaint que les Français ne servent pas de soupe, pas de potage à l'heure du dîner. Il reçoit une somme considérable pour chanter, un logement somptueux, une voiture à deux chevaux, enfin bref, tout ce qu'il lui faut, mais pas de soupe, donc ça ne lui convient pas. C'est une vraie... Je vous dis que c'est une diva. Non, pardon, c'est un divo. Le 5 novembre 1953, il va se produire au Palais Royal, au concert spirituel, en présence du roi Louis XV en personne. Le roi qui, le lendemain, envoie un courtisan lui apporter une boîte à priser en or. On le félicite et on le récompense selon le statut extraordinaire qui est le sien. Et Caffarelli va montrer dédaigneusement au messager une collection de plus de 30 tabatières et toutes sont plus somptueuses les unes que les autres. Il ajoute qu'il n'en accepterait une autre que si elle comportait le portrait du roi. Quand il apprend que seuls les ambassadeurs reçoivent de telles tabatières, il s'exclame qu'il demande donc aux ambassadeurs de chanter. Caffarelli aurait dû savoir qu'on ne joue pas ce genre de jeu à la cour de France. Ça ne passe pas. Le lendemain, la dauphine vient en personne chez lui. Elle lui présente un passeport signé par le roi lui-même. « Grand honneur, dit-elle. Les laissez-passer signés ne sont valables que 10 jours. Autrement dit, casse-toi !»
Ha ha ha!
étourdissant Franco Fagioli dans cet air de Sémiramide de Leonardo Vinci. C'était le grand air de Caffarelli.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors évidemment, Farinelli à côté est un agneau, hein, si on le compare à l'épouvantable Caffarelli. Il a d'ailleurs souffert des caprices et de l'orgueil démesuré de son confrère, qu'il a considéré plus comme un ami que comme un rival. Caffarelli ne lui rendait pas ce genre d'amitié. Hein. Il n'a pas hésité à lui affirmer au roi de Sardaigne qu'il trouverait en lui deux Farinelli en une seule personne. Oui, non, mais voilà, il y en a un qui est plus sympathique que l'autre, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Caffarelli affronte Farinelli dans l'opéra Mérope de Giacomelli. On est en 1735. Farinelli l'emporte, si j'ose dire, à l'applaudimètre. La foule est complètement transportée. Lorsqu'il chante, il va rejoindre Londres, où les théâtres commandent 15 opéras spécialement taillés à sa mesure pour les saisons de 1734 à 37. Mais le Napolitain a un rival, Handel, qui lui aussi a élu domicile dans la capitale anglaise, avec une compétition qui devient féroce, compétition presque aussi politique qu'elle est artistique. Porpora est le champion de la nobility, de tous les gens à la mode, si je puis dire, alors que Handel est le champion, lui, de la famille royale. Handel se remet d'une crise d'apoplexie, il a été épuisé par les rivalités qui opposent à l'époque les théâtres londoniens et par les caprices du castrat Senesino, hein, qui était la troisième star de l'époque, si vous me passez ce nouvel anachronisme. Handel va jouer de la rivalité entre Caffarelli et Farinelli, et il va prendre parti pour le premier contre le second. Chacun réclame des cachets considérables, doublés par des soirées à leur propre bénéfice. Il faut vous dire que ce que gagnent les castrats à l'époque est complètement phénoménal. C'est ce que nous raconte, par exemple, en avril 1735, The Political State of Great Britain. Voici ce qu'on peut lire dans ces pages. Le 15 du mois dernier, le célèbre signor Farinelli eut sa soirée de bénéfice à l'opéra de Haymarket, où le public était fort nombreux. On estime qu'il eut un bénéfice extraordinaire. Son Altesse royale, le prince de Galles, lui offrit 200 guinées. L'ambassadeur espagnol, 100. Celui de l'empereur, 50. Sa grâce, le duc de Leeds, 50. La comtesse de Portmore, 50. Sa grâce, le duc de Richmond, 50. L'honorable colonel Paget, 30. Pardon, alors oui, on n'est plus dans la haute aristocratie. Là. Lady Rich, 20. Et la plupart des autres nobles, 50, 30 ou 20 chacun au total. On peut compter que cette saison en Angleterre lui aura rapporté 4 ou 5 000 livres. Autant dire des sommes complètement faramineuses. Les opéras se ruinent pour avoir de tels chanteurs et les opéras rivaux de celui où s'est produit Farinelli vont avoir le plus grand mal à survivre. Depuis 1737, Farinelli a quitté l'Angleterre. Ça y est, il est à Madrid maintenant, où il a été invité par l'épouse du roi Philippe V d'Espagne, Elisabeth Farnèse. Vous savez que le pauvre Philippe est complètement neurasthénique, qu'il a totalement fui la vie publique. Il vit dans le noir, seul, reclus. Seule la voix de Farinelli parvient à apaiser sa majesté. C'est en tout cas ce qui se murmure dans les couloirs de la cour d'Espagne. Évidemment, il va falloir payer cette exclusivité. Ça coûte 2000 ducats par an. Des sommes qu'on ne peut même pas imaginer. Hein. C'est le prix de plusieurs châteaux. Le successeur de Philippe V, Ferdinand VI, va renouveler sa confiance à Farinelli, qui d'ailleurs est fait chevalier de l'ordre de Calatrava, la plus haute distinction ibérique. Et il va régner, Farinelli, pendant des années sur toute la vie musicale madrilène, où il dirige l'opéra et où il va permettre d'ailleurs l'éclosion de nombreux talents, parce que contrairement à Caffarelli, il est très ouvert aux autres talents, lui. Il ne se retirera qu'en 1759 dans sa villa, près de Bologne. On peut dire que tous les gens qui font ce qu'on appelle à l'époque le grand tour veulent absolument voir, j'allais dire toucher Farinelli. Il est un peu devenu un monument historique. Et Caffarelli, me direz-vous, eh bien lui se produit une dernière fois au plus célèbre et plus important théâtre de l'époque en Europe, le San Carlo de Naples, en 1754, avant de se retirer dans les Pouilles à San Donato, où il a acheté carrément le duché. Il décède à Naples le 31 janvier 1783. C'est précisément à Naples que la formation des castrats est devenue, au plus qu'un artisanat, c'est devenu une industrie, disons les choses. La pratique a trouvé un terreau fertile dans cette cité, dans ses environs, soumis à la servitude de ces gigantesques domaines qu'on appelle les latifundia. Les institutions religieuses se donnent pour mission de réduire l'écart entre la grande pauvreté et l'extrême opulence, entre l'aristocratie et la petite population surnombreuse. La musique est un débouché comme un autre. Les pères de famille, et notamment ceux qui ont des familles nombreuses, vendent leurs enfants, j'emploie le terme à dessein. Ils sont assurés de les voir logés, nourris, blanchis, et dans le meilleur des cas, ils seront fortunés, ils feront fortune. L'enfant est, d'une certaine manière, devenu commercialisable pour peu qu'il possède une assez belle voix et quelques prédispositions à la musique. Il ne suffit pas d'avoir de belles cordes vocales, il faut aussi avoir une belle oreille, bien sûr. Cet état de fait va durer jusqu'à l'époque de Rossini, ça va durer presque pendant 2 siècles, où on verra d'innombrables garçons venus de Campanie, de Calabre, d'Épouille, de Sicile, faire cette espèce de vivier inépuisable de musiciens, des musiciens qui tous subissent la petite opération. Vous avez bien sûr reconnu l'Amadis de Gaulle de George Frédéric Handel. Ça, c'est le grand air maintenant de Farinelli qui était interprété par Bejoun Mehta, le fils de Zubin Mehta, accompagné par l'orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce n'est pas une invention du XVIIIe siècle italien, hein, cette castration, cette idée de castrer les garçons pour les transformer en objets de désir esthétique. Ça existait déjà dans l'Antiquité. Les prêtres de Cybèle s'émasculaient. Le théologien Origène se châtrera pour se débarrasser d'une sexualité qui ferait, selon lui, de l'homme une bête. Mais voyez que là, l'objectif n'est pas du tout musical. Et saint Paul va fermer l'église aux voix féminines et promouvoir ce qu'on appelait à l'époque les empêcher. L'eunuchisme s'est imposé dans le paysage sonore de la Méditerranée. Il venait de l'Orient, de l'Extrême-Orient, hein, de la Chine, de la Russie, de l'Inde. C'est à la fin de la Renaissance que la saga des castrats commence. Les premiers sont répertoriés l'année 1562, donc sous le pontificat de Sixte V à Rome. Ils chanteront à la Sixtine, et là, tenez-vous bien, ils chanteront jusqu'en 1914. L'adulation que les castrats commencent à susciter devient vite extravagante, écrit encore Vincent Borel. La reine Christine de Suède ordonne une trêve durant la guerre avec la Pologne afin que Baldassare et Ferry franchissent les lignes pour se rendre à Stockholm. On frappe même une médaille pour commémorer l'événement. Incroyable. Alors évidemment, il y a tout un ensemble de fantasmes qui se développent autour du phénomène. Hein. Le traité des eunuques de Charles Ancillon, on est là en 1717, évoque une île mystérieuse qui serait au nord-ouest de la Sicile, ou bien dans les éoliennes, et qui aurait été le centre clandestin de cette production humaine. Bon, ça c'est du fantasme pur. Plus sérieusement, ce sont Bologne, cité fameuse pour ses chirurgiens, évidemment, avec sa grande école de chirurgie, et Naples, réputée pour ses conservatoires, qui deviennent des centres de formation pour tous ces castrats du 18e, avec un engouement qui coïncide avec l'amplification de l'opéra, genre né à Mantoue et à Venise. Un des tout premiers castrats à faire courir les foules, c'est Ato Melani, le créateur de l'Orfeo de Luigi Rossi. On est à peu près 40 ans après l'Orfeo de Monteverdi. Les castrats issus des salons aristocratiques commencent à séduire un public plus large et, sur ordre du pape Clément XI, les théâtres publics, les oratoires doivent obéir aux proscriptions faites aux femmes par saint Paul. C'est quand même un comble. C'est l'Église qui va pousser au phénomène. On croit rêver. Tout ce qui chante à l'intérieur des États pontificaux, c'est-à-dire un tiers de l'Italie de l'époque, hein, vous imaginez l'ampleur de ces États pontificaux, tout ce qui chante à l'intérieur de ces États doit l'être par un homme, ou bien, disons les choses, par un homme diminué.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, nous dit Jérémy Bigori, qui a bien sûr préparé cette émission, à parcourir les biographies des castrats, un constat s'impose. Ils avaient bel et bien une sexualité. Leur goût n'avait rien d'exotique. On rencontre parmi eux des hommes chastes, mais aussi des donjuans frénétiques comme Velluti, qui a enchaîné les conquêtes jusqu'à attirer sous sa couette, si l'on ose dire, une grande duchesse Romanov à Saint-Pétersbourg. Il y a aussi quelques homosexuels revendiqués. L'ambiguïté des castrats en fait une figure qu'on doit pouvoir dire emblématique de la décadence, en même temps qu'elle est très charismatique, cette figure. On les voit proliférer dans un certain nombre de parties fines jusqu'au Vatican, bien sûr. C'est Casanova qui nous raconte ça, puisqu'il y prend part, lui, en 1761. Voilà ce qu'il dit. « Le comte de Lismore me fait passer en revue tous les individus qui composent sa belle société. 7 à 8 filles, 3 ou 4 castrati, tous faits pour jouer le rôle de femme sur les théâtres romains, et 5 ou 6 abbés maris de toutes les femmes et femmes de tous les maris, qui s'en vantaient et qui défiaient l'impudence à briller plus qu'eux. Ces filles, cependant, n'étaient pas ce qu'on appellerait putain public, c'étaient des amatrices de musique, de peinture et de philosophie libertine. Un castrato et une fille proposèrent d'aller se mettre nus dans la chambre avec la condition qu'ils auraient la tête couverte et qu'ils se tiendraient couchés au lit sur leur dos. Ils défièrent tout le monde à les aller voir et à se trouver en état de décider lequel était mâle ou femelle. On fit des paris. » Voilà à quoi s'amuse l'Europe aristocratique du XVIIIe siècle. Ces héros étaient, dans tous les sens qu'on peut trouver à ce mot, baroque. Avec l'avènement des Lumières, on peut dire que cette esthétique un peu particulière est considérée comme un affront à la nature et même bientôt comme une atteinte aux droits humains. Avec, à la place de la fascination qui avait fait se déplacer les foules, une forme de dégoût. L'Orfeo de Gluck, qui est créé par le castrat Guadagni à Vienne en 1762, devient Orphée dans la France de 1774 et c'est un ténor aigu. Joseph Legros qui l'incarne, ce n'est plus un castrat. Le poète mythique redevient masculin 2 siècles après Monteverdi. Et pourtant, l'époque qui s'annonce va garder la nostalgie de ce qui doit passer pour un âge d'or. Voici ce qu'écrit Stendhal à propos des castrats. Depuis qu'il n'y a plus de soprano, il n'y a plus de science musicale au théâtre. Par désespoir, ces pauvres diables devenaient de profonds musiciens. Dans les morceaux d'ensemble, ils soutenaient toute la troupe. Ils donnaient du talent à la prima donna qui était leur maîtresse. Nous devons 2 ou 3 chanteuses à Velluti. Ça, c'est Stendhal qui le dit.
Vous écoutez Radio Classique.
Vous avez entendu ma voix dans toute cette émission, mais la vérité, c'est que c'est une émission de Jérémy Bigori, puisqu'il en a fait et le canevas et les musiques. Donc, un grand merci à Jérémy et bonjour à Christian.
Pardonnez-moi, j'ai la voix un peu prise ce matin.
Si je me demandais ce que vous alliez dire. Tant qu'il s'agit de la voix, tout va bien.
Oui, c'est le cas de dire. Ne nous étendons pas sur le sujet. Cet après-midi, la princesse Mathilde évoquée par Proust, j'ai vu ça,
oui,
au moment où il disait, vous savez, l'ami de Flaubert, de Sainte-Beuve, de Dumas, puisqu'elle tenait salon à Paris.
Oui, bien sûr. sûr, la cousine de Napoléon III.
Voilà, et puis alors j'ai vu aussi qu'elle était excellente peintre.
Oui, bien sûr.
De l'aquarelle, comme on dit.
C'était la grande heures. Distraction du Second Empire.
Ça. Exactement. La princesse Mathilde à 14h.
Qui habitait juste à côté d'ici.
On pas très loin.
On peut y aller quasiment à cloche-pied depuis les studios.
Mais j'irai peut-être tantôt en vous écoutant. Et puis, en vous souhaitant un bon week-end, on vous retrouve avec plaisir dès lundi.
À lundi.